9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Voilà près de 80 ans qu'il déploie sa curiosité immense et ses connaissances intarissables sur le cours du XXe siècle et maintenant sur le début du XXIe. Marc Ferraud est né en 1924. Il a publié sur la Révolution russe, les deux guerres mondiales, la colonisation, le cinéma, écrit la biographie de référence de Pétain, animé pendant 12 ans l'émission Histoire parallèle sur Arte, co-dirigé la revue Les Annales avec Fernand Braudel. Mais avant de raconter l'histoire, Marc Ferraud a aussi contribué à la forger. Entré dans la résistance à 18 ans, il figure parmi les derniers survivants du maquis du Vercors et des combats de la libération de Lyon. Professeur en Algérie après la guerre, il a été un témoin direct et engagé de la guerre d'indépendance. Marc Ferraud, dans ses livres et ses récits, a toujours été un éclaireur, un homme désireux de comprendre son époque à la lumière des événements passés. C'est ce grand témoin, savant de 95 ans, qui publie un nouveau livre, « L'entrée dans la vie », que nous sommes allés rencontrer chez lui, près de Paris, dans son bureau, où livres et revues s'entassent jusqu'au plafond. Marc Ferraud qui regarde le monde changer depuis près d'un siècle est notre invité spécial jusqu'à 10h.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Marc Ferraud.
Bonjour.
Merci de nous accueillir et de nous faire partager votre regard et votre curiosité. Un regard d'historien et d'un homme toujours curieux de son époque?
Nécessairement. Parce que l'histoire dont je suis un amateur, comme vous savez, ne se comprend que si on regarde aussi son époque. Dans le passé, quand moi j'étais élève ou quand j'étais même professeur, dès qu'on s'arrêtait à 30 ou 40 ans avant l'époque où on parlait, pour le sens commun, c'était plus de l'histoire. Parce que l'histoire, c'était le passé. Et puis, au bout du passé, il y avait une fermeture. Et parler de ce qui suivait, c'était sortir du sujet. C'était pas être un savant, c'était être un amateur, c'était faire de la politique, c'était tout ce qu'on veut, c'était pas de l'histoire. Alors que maintenant, ça s'est inversé. C'est-à-dire que si on n'enracine pas le présent dans le passé, on comprend bien que finalement, ce présent, on ne le comprend pas.
Alors, premier sujet d'actualité, au regard de l'histoire, le coronavirus qui se répand et fait des victimes sur les 5 continents, qui provoque des craintes, des confinements et le ralentissement de l'économie. Est-ce que c'est le réveil d'une peur ancestrale ou bien c'est un phénomène moderne, l'effet de la mondialisation et de l'ouverture des frontières?
C'est peut-être ni l'un ni l'autre. Si vous vous rappelez comment le sida a surgi, on a cru d'abord que c'était l'effet des relations multiples des homosexuels. On a cru ensuite que c'était lié, à partir de l'Afrique, à une contagion venue d'un animal quelconque. On a cru, etc., etc., etc. Jusqu'au moment où on s'est aperçu que les bactéries étaient des êtres vivants, mais des êtres vivants qui s'endormaient et qui se réveillaient. C'est-à-dire que la nature comporte des éléments vifs qui réagissent. Et ce qui s'est passé avec le sida, c'est que les bienfaits des progrès de la médecine, notamment par l'éradication de la tuberculose, entre autres, en Afrique surtout, et pas seulement la tuberculose, bien sûr, ça a réveillé des bactéries qui étaient endormies et qui ont amené en échange, si je puis dire, le sida. Là, il semble que ça pourrait être quelque chose, non pas de similaire, mais de parallèle un peu. Puisque arrive de partout, on ne sait pas pourquoi, cette épidémie dont on essaye de trouver le parcours à tout prix, mais c'est un parcours curieux, puisque ce sont des points aux quatre coins de la planète, simultanés. Ça nous montre aussi la complexité de ce qu'est la nature et de ce que, à force d'opposer nature et culture, etc., etc., on n'a pas vu que ça formait un tout.
Il y a un médecin que vous citez dans l'un de vos livres à propos d'une épidémie ancienne et qui dit « les bactéries sont plus intelligentes que les hommes ».
Oui, ça c'est un Américain qui a dit ça, puisqu'il a tiré la conséquence de ce trait, n'est-ce pas, que les bactéries, quoi qu'on fasse, elles ont réussi à régénérer. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'au début, on a cru que c'était parce que nous nous accoutumions aux antibiotiques. On s'accoutumait peut-être, mais les bactéries aussi.
Marc Ferraud, vous avez souvent montré dans de nombreux ouvrages que que l'histoire n'avait pas de sens, que l'idée du roman national était une chimère, que l'histoire était imprévisible. Vous avez écrit le retournement de l'histoire, l'aveuglement, les ruses de l'histoire. Comment donner du sens au bouleversement d'aujourd'hui ?
Depuis quelques décennies, la force motrice des sociétés, presque toutes, vous allez voir, n'est plus la lutte des classes, mais le ressentiment. La lutte des classes continue, évidemment. On la trouve partout, chez tout le monde, sur tous les continents. Mais ce qui a été le nouveau moteur de l'histoire, c'est le ressentiment. Le ressentiment, évidemment, d'abord décolonisé, avec toutes ces variables que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Mais pas seulement. Le ressentiment des pays de l'Est contre la Russie. Pas contre le communisme seulement, mais contre le tsarisme d'avant. Donc nous avons là deux ressentiments massifs qui sont quelque chose d'important, tout comme les Noirs aux États-Unis. Ça fait trois. Et puis peu à peu, en Amérique latine, la révolte indienne, ça fait quatre. Donc ce ressentiment, c'est-à-dire le fait que le passé compte presque plus que le présent, est devenu un des moteurs principaux de l'histoire de ces 50 dernières années. Et l'exemple type moteur, si je puis dire, ça a été les Arméniens. Les Arméniens, tant que les Turcs n'ont pas reconnu le génocide de 1915, ne pensent qu'à ça. Tout ce qu'ils peuvent avoir de rapport avec leurs voisins dans le Caucase ou d'histoire en Syrie ou ailleurs, eh bien, les Arméniens, ils ne veulent pas le savoir. Ils veulent savoir une seule chose, que les Turcs reconnaissent le génocide. C'est un ressentiment, j'allais dire, symbolique, mais qui est retrouvé un peu partout dans le monde, puisqu'aujourd'hui, il est sûr que le monde de l'islam, c'est le ressentiment qui l'anime.
Oui, ça, vous avez écrit aussi sur cette surprise de l'histoire, la renaissance de l'islam sous une forme politique et guerrière.
Pas seulement l'islam,
oui.
Parce que également les pays de l'Est,
bien sûr,
ont un ressentiment aussi violent. On voit que si l'Europe dérape, patine, ne fait rien, etc., c'est parce qu'à l'Est, ils sont d'abord anti-russes ou anti-soviétiques, n'est-ce pas ? Alors qu'à l'Ouest, on essaye de trouver une solution d'équilibre comme De Gaulle l'avait imaginé dans les années 50.
Marc Fayrault, historien, invité spécial d'Europe 1 ce matin, qu'on retrouve après une pause.
Europe 1, de 9h à 10h le samedi, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen.
Avec notre invité spécial, le grand historien Marc Fayrault, qui publie L'entrée dans la vie chez Talendier. Marc Fayrault, vous êtes un historien qui s'est toujours défié des idées reçues et des idéologies, et vous avez beaucoup écrit sur les retournements ou les surprises de l'histoire, tout ce qui met en doute les prévisions d'experts.
Mais alors, ce que j'ai recensé, indépendamment des faits qui corroborent plus ou moins chaque situation, c'est qu'il y a des formes du refus de la vérité. Et ces formes du refus de la vérité, on les retrouve encore aujourd'hui. Alors, la première, vous la connaissez, c'est ce qu'on pourrait appeler la méprise. On se trompe sur le sens des événements. On a cru que Munich, c'était la paix. Vous voyez ?
Bien sûr, Munich est le retour de Daladier,
par exemple,
de Munich, qui a été salué par les Français.
Il y a tout un catalogue comme ça.
Bien sûr. Bon. Et une image extraordinaire que vous avez retrouvée,
oui.
Qui est celle des Berlinois en liesse le 11 novembre 1918, pensant que la guerre était gagnée.
Ils croyaient que la guerre était gagnée. Bon. Donc, la méprise, c'est une chose. Après la méprise, il y a autre chose. Il y a la crédulité. Quand les Français et les Anglais vont en URSS, en 1917, 18, 19, tout est beau, tout est merveilleux, etc. Bon. Ils se laissent complètement illuminés par les organisateurs. Et puis on retrouvera ça avec Cuba, on retrouvera ça avec Mao. Et on retrouve ça aussi pour certains qui partent en Syrie combattre ça avec l'islam extrême. Donc, là, en quelque sorte, cette manière d'être crédule à des discours qui vous enveloppent, c'est quelque chose de fantastique. C'est la deuxième possibilité d'erreur. Bon. Il y en a une troisième, c'est l'optimisme. L'optimisme aveugle, alors là, c'est le monde des affaires. N'est-ce pas ? Le monde des affaires, il ne peut pas dire « ça va mal tourner ». S'il dit « ça va mal tourner », il est foutu. Il faut qu'il dise « ça va aller très bien ». Mais oui, c'est passager. Vous allez voir, il y a des cycles, etc. Alors on attend les cycles, n'est-ce pas ? Comme Jésus-Christ. Mais les cycles, il n'y en a plus depuis que le monde a changé. Il y avait des cycles quand le monde était, en quelque sorte, sans grand changement, mais depuis la mondialisation, il a changé. Et personne ne pouvait s'imaginer que la Chine, n'est-ce pas, en quelques décennies, dépasserait le Japon et atteindrait presque les États-Unis. Il y avait l'optimisme nécessaire à la réussite des affaires, qui est une obligation. Alors ça fait déjà trois. Bon. Et puis il y a aussi, pour illustrer l'aveuglement, le fait que les gens croient dans une certaine doctrine. Alors ça peut être le christianisme, ça peut être l'islam, ça peut être etc. Mais ils y croient dur comme fer. Et ce qui est remarquable, c'est que les croyances qui émanent des doctrines sont plus fortes que la science. Je ne sais pas si vous avez remarqué que sur les problèmes de leur identité, les grandes religions sont intraitables. Le christianisme, Jésus a ressuscité. Pas de question. Pour l'islam, comme vous le savez, Mahomet a tout prévu. Ça fait deux. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que les scientifiques, eux, pour que leur découverte progresse et que ainsi, comme ils le souhaitent, l'humanité s'améliore, ils sont obligés de faire des concessions de temps en temps. Ils leur font des colloques pour se mettre d'accord. Tandis que les croyants, pas. C'est ce qui fait la force des idéologies de la foi.
Encore un mot sur un grand phénomène de notre époque, Marc Ferro, le phénomène populiste. Où et quand a-t-il pris naissance? Où le faites-vous remonter?
Schématiquement d'abord, le populisme est apparu quand la lutte des classes a survécu sous une autre forme, les classes populaires et les élites. Ce n'était plus la richesse, le pouvoir des uns face aux autres, esclaves, qui était le moteur des grèves de tout, n'est-ce pas ? C'était le fait qu'il y avait au plafond un groupe social qu'on appelle maintenant les élites et qui est à mille lieues-lumière de ceux qui travaillent le matin. Et c'est ça qui s'est réveillé, la lutte contre les élites avec les gilets jaunes, n'est-ce pas ? Des gens qui étaient dégoûtés parce que la lutte des classes n'avait rien apporté et qui se sont révoltés quand ils n'en pouvaient plus. Et ça, ce n'était plus de la lutte des classes vraiment. C'était la mise en cause des élites et maintenant le rejet des élites par les classes populaires est quelque chose de plus fort encore que la lutte des classes, parce que la lutte des classes, c'était par catégorie. Tandis que les élites, elles sont partout. Et surtout, elles sont nulle part. On ne peut pas les atteindre et elles nous gouvernent. Donc c'est ça le premier pas, si je puis dire. Et vous avez remarqué d'ailleurs que tous les populistes critiquent uniquement les dirigeants, mais les dirigeants pas seulement politiques, les dirigeants des médias, les dirigeants économiques, les dirigeants, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il y a un plafond qu'ils ne peuvent pas atteindre et qu'ils ont beau faire des études, c'est stérile. On entre dans la vie quelquefois à 40 ans quand on est dégoûté. Alors là, on se révolte. On n'entre pas dans la vie seulement quand on se marie ou quand on a son premier boulot. Et il y a des tas de cas intéressants où on voit qu'il y a une reprise de la volonté d'être quelque chose qui peut se passer à 30 ans, 40 ans, même 50 ans. C'était le cas des Gilets jaunes. Europe 1.
L'historien Marc Ferro qui publie L'entrée dans la vie continue de nous raconter l'histoire et des histoires dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Marc Ferro, publié chez Talendier, L'entrée dans la vie, où vous nous racontez des célébrités et des inconnus dont le destin a été marqué à l'adolescence ou lors de leur passage à l'âge adulte, oui, ou plus tard, comme vous venez de le dire, par leur famille, leurs conditions sociales, leurs amours ou leur engagement à l'occasion de grands événements. La misère de Chaplin, l'aristocratie de Churchill, l'exécution du grand frère de Lénine quand il avait 17 ans, la mort du père de Gandhi, beaucoup d'autres histoires qui forgent une manière d'être, un caractère.
Oui, c'est le moteur, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que cela forge un changement d'abord dans leur propre vie, mais aussi un changement dans la vie des autres. C'est ce que j'ai appelé les grands engagements, le grand tournant. Le cas de Chaplin, si vous voulez, est autre, tout comme celui de Dickens. C'est leur enfance qui les a marqués toute la vie. Ils ont été persécutés, on les a fait travailler, etc. etc. Ça, c'est Dickens. Chaplin, c'est beaucoup plus rare et plus bouleversant. Il avait 5 ou 6 ans quand sa mère travaillait dans un cabaret. Le père avait disparu en Afrique ou ailleurs. Et le petit, eh ben, tous les soirs, sur un tabouret, il était dans un coin de la salle où sa femme chantait, dansait, tout ça. Sa mère, pardon. Sa mère. Dansait, chantait, tout ça. Et cette mère, ben, elle dansait pas très bien. Elle chantait pas très bien. Et sa voix, souvent, s'en allait. Et du coup, ben, le petit public de ces cabarets, 60 personnes, 100 personnes, jetait des pièces pour qu'elle s'en aille. Et la huait. Et le petit, il voyait ça. Jusqu'au jour où le patron du cabaret n'en pouvait plus de voir ce chahut. Et il a été la chercher et il l'a sorti de la scène. Et il a dit au petit qui, de temps en temps, faisait le petit con, ses petites grimaces, il a dit, vas-y à sa place. Et le petit y a été. Et alors lui, tout de suite, il a eu l'instinct de la scène.
Du public.
Il a dit tout de suite, moi, je ne dis rien tant qu'on ne me donne pas de l'argent. Et quand on lui a donné quelques sous, il a commencé à chanter, comme sa mère, mais plus mal. À danser, comme sa mère, mais plus mal. À faire le pitre, comme sa mère, mais plus mal. Et c'était très drôle. Et du coup, le patron a dit, bah, c'est toi qui la remplaceras. Le petit avait 5 ou 6 ans. À la maison, maman lui a dit, écoute, maintenant c'est toi qui vas travailler, c'est plus moi. Il ne s'est pas rendu compte. Mais quelques mois plus tard, comme elle s'était réfugiée dans un asile chrétien, il l'a vue en toge, blêmie, 30 ans de plus, et il a compris qu'il était un criminel. Et toute sa vie, Charlie Chaplin a été poursuivi par l'idée qu'il était un criminel. Il avait tué sa mère. Il l'avait tué à sa façon, mais il l'avait tué quand même. Et dans toutes les pitreries qu'il a faites plus tard, on retrouve la vengeance qu'il veut exercer contre ceux qui ont été si peu charitables avec elle. Et si vous vous rappelez, cette canne, eh bien, c'est son arbalète, c'est son fusil, c'est sa mitrailleuse, c'est tout ce qu'on veut. Et elle atteint toujours un salaud. Elle fait semblant d'aller nulle part, mais elle frappe un salaud. Il stigmatise les criminels vu sa charité personnelle, mais le plus grand criminel pour lui, c'est lui. Alors ça, c'est une expérience pathétique qui rend compte du succès de Charlie Chaplin dans tous les pays du monde. Mais il y en a d'autres qui se sont révoltés contre les parents. Et ça, c'est important. Le cas de Staline est tout à fait curieux. Et puis alors, personne n'en parle parce que c'est tabou.
Oui.
Quand sa mère est morte, Staline a refusé d'aller à son enterrement. Et lui, il répétait, oui, parce qu'elle m'a battu, elle n'aurait pas dû. Mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est autre chose. C'est que Staline et sa femme, qui étaient artisans savetiers, soit, n'avaient que tout petits moyens, et ils se faisaient un peu de sous en allant chez le bourgeois, servir à table, rendre des services et tout. Et la mère de Staline, il semble que, eh ben, elle ait fauté avec le maître de maison. Et le maître de maison, pour la remercier, a permis à Staline, qui était d'une classe sociale inférieure, d'aller dans une école qui permettait de monter plus haut plus tard. Et là, les petits copains lui disaient « Haha, t'es là parce que ta mère a couché. Hein. T'es là parce que ta mère a couché. Hein. » Et du coup, s'il avait fallu qu'il revienne pour l'enterrement, il aurait retrouvé tous ses petits copains qui avaient 20 ans ou 30 ans de plus et qu'il avait humilié tout le temps. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu retourner. Ce n'est pas pour une autre raison. Ce n'est pas parce qu'elle l'a battu. Donc, il y a d'autres tas de cas intéressants parce que la rupture avec les parents, quand c'est le père ou la mère, ça dépend. Là, c'est la mère, peut avoir une suite. Dans le cas de Staline, pas de façon explicite et même pas du tout. Peut-être un caractère ombrageux parce que tous les garçons qui ne savent pas qui est leur père sont toujours un peu soupçonneux vis-à-vis de leur mère quand il y a des signes un peu troubles. Kafka, Son cas est un cas assez extraordinaire. Il détestait son père parce que son père était un homme fort, large, violent, et lui, petit, chétif. Et du coup, bien, il était très malheureux, bien sûr, Kafka, de ça. Et c'est pour ça que, dans son œuvre, il montre comment il est écrasé. Et il y a une scène fantastique dans cette lettre à son père qui a plusieurs dizaines de pages. Il dit, tu comprends, tu m'écrasais. Alors moi, un peu comme un ver de terre, je me suis coupé en deux. Une partie de moi a pu sortir de la maison, mais l'autre, tu l'as tué. Et j'aurais voulu que je puisse te raconter ça dans tes bras. Donc, la souffrance d'un père trop dur a abouti à la création d'une œuvre qui nous annonce le futur, c'est-à-dire la terreur ou bien d'un homme, ou bien d'une institution, ou bien d'une église, ou bien d'autre chose. Donc, c'est un prophète formidable. Et Ionesco, c'est autre chose, c'est la lâcheté de son père qu'il stigmatise. Parce qu'en Roumanie, il essaye de saluer tous les chefs d'État. Il y a eu des fascistes, il y a eu des communistes, il y a eu des soviétiques, il y a eu toute une gamme. Et lui, il les applaudit toujours. Et Ionesco nous dit, bof, tout ça, c'est ridicule. Parce qu'au fond, il n'aimait pas le pouvoir. Il aimait saluer le pouvoir. C'était stérile. Ça servait à rien. Et lui, il était comme un con, si j'ose dire, à applaudir à ceux qui dirigent parce qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir. Et lui, en quelque sorte, Ionesco, il nous décrit le passé où tous les gens que nous connaissons, en France, en Angleterre, en Russie, où vous voulez, saluent ceux qui ont pris le pouvoir. Ils les admirent, fascinés. Donc, tous ces gens-là nous éclairent un peu sur, en quelque sorte, ce que le rejet des parents peut amener ensuite comme événement. Europe 1.
Marc Ferraud, le grand historien qui nous parle de sa propre entrée dans la vie, son entrée dans la résistance à 18 ans. A tout de suite.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, se poursuit jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
L'entrée dans la vie, Marc Ferraud. Dans ce livre, il manque, mais je sais pourquoi, il manque un chapitre. Votre entrée dans la vie, à vous, elle a été marquée par un drame, la perte de votre mère déportée, et un engagement majeur dans la résistance. Vous aviez 18 ans à Grenoble, dans le maquis du Vercors, puis dans les combats pour la libération de Lyon au sein du 6e bataillon de chasseurs alpins. Qu'est-ce que ça a déterminé de votre vie ?
Pour dire la vérité, quand j'étais étudiant à Grenoble à ce moment-là, entrer dans la résistance, ce n'était pas un acte héroïque, c'était tout à fait naturel. En fait, ça n'a pas commencé très tôt, parce que Grenoble était occupé par les Italiens. Et du temps des Italiens, c'était, ouvrez les guillemets, une occupation douce. Les Italiens allaient sous les fenêtres des jeunes filles du lycée d'en face, leur faisaient des appels pour aller s'amuser ensemble, et les filles leur jetaient de l'eau avec un petit arrosoir pour en rigolant. Voilà, c'était ça l'occupation italienne. De plus, l'occupation italienne protégeait les Juifs d'une certaine façon quand ils faisaient appel à eux, pour autant qu'il y avait un désaccord sur la nature de l'antisémitisme, au moins en France, quand il s'agissait des Italiens. Donc, du temps des Italiens, il n'y a pas eu de résistance du tout. C'était une zone libre, mais presque plus libre que la zone libre, si je puis dire, la zone italienne. Et puis voilà que, quand les Allemands sont arrivés, en septembre 1943, tout a changé en 48 heures. Il y a eu des fusillades d'Italiens, des exécutions, des drames et tout. Et c'est là que sont nés les réseaux. Et alors moi, on m'avait donné comme tâche, parce que j'avais l'allemand comme deuxième langue, d'aller autour de Grenoble pour repérer qui gardait les portes de Grenoble, étant sous-entendu que quand le débarquement aurait lieu, quand les troupes alliées viendraient sur Grenoble, elles iraient aux portes où ce n'étaient pas des Allemands qui étaient là, mais des Polonais, ou sinon des Polonais, des Tchèques, ou sinon des Tchèques, etc. etc. Ça n'a pas eu d'effet vraiment, mais c'était ça mon petit boulot. Et comme mon petit réseau a été surpris, on m'a caché, et ensuite on m'a emmené au maquis. Mais j'ai été le secrétaire du colonel parce que j'étais géographe et il n'avait pas de géographe. Donc il fallait que je leur dise où étaient les différents postes de résistance. Et j'ai donc su à peu près le quotidien du désastre des quatre jours qui ont amené la chute du Vercors.
Longtemps, Marc Ferraud, vous n'avez pas mis en avant votre passé de résistant, ni parlé de votre famille persécutée, votre mère déportée. Pour quelles raisons ?
Alors, d'abord, mon passé de résistant, j'étais assez circonspect d'en parler trop, parce que quand j'ai retrouvé une partie de ma famille et qu'ils m'ont vu en uniforme, avec mon brassard Vercors, ma tante qui était adorable, qui m'aimait beaucoup, « Ah, Marco, t'es devenu un terroriste !» C'est vous dire que la propagande de Vichy et des Allemands avait imprégné toute une partie de la zone dite libre, n'est-ce pas ? Et en rentrant à Paris ou ailleurs, je me méfiais des différentes réactions si j'avais un passé de résistant qui allait m'handicaper. Donc, j'en ai jamais parlé.
Ça n'était pas bien vu à la Libération. Pas forcément bien vu.
Pas forcément bien vu. Quant au fait de ma pauvre mère, mon drame, évidemment, c'était que j'étais désemparé. On ne savait pas qu'elle ne reviendrait pas. Et on attendait. On allait voir à l'hôtel
Lutetia
à Sainte-Babylone. Je parle, les listes tous les jours, s'il y avait, il y avait personne.
Vous y allez tous les jours, chaque semaine ?
Dès qu'on savait qu'il y avait une nouvelle liste, on y allait. Ouais. Donc on y allait, on voyait rien. Et moi, j'étais sans moyens, évidemment. Monsieur Wort, qui était le patron de ma mère, qui était grande modéliste avant la guerre.
Haute couture.
Il a eu la gentillesse de me continuer à la payer jusqu'à ce que j'aie mon bachot. N'est-ce pas ? Mais ça s'est arrêté en septembre 1942. C'est pas terrible. Enfin bref, il l'a fait quand même. Donc j'ai cherché un boulot. Alors j'ai d'abord été porteur Gare Montparnasse. Mais là, porteur Gare Montparnasse, les porteurs institutionnalisés, avec leur brassard, ils ne voulaient pas de petits gamins qui leur piquent leur boulot. Donc ça n'a pas duré. Après, j'ai mis une petite annonce, je ne sais plus dans quel journal, et le collège Albert Demain m'engage. Je devais enseigner l'anglais, parce que j'avais de bonnes connaissances en anglais. Le supérieur m'engage, il a été très gentil, et quand je l'ai quitté à la fin de l'année, parce que j'espérais avoir un poste dans l'enseignement, j'ai été licencié, il m'a dit « tu peux rester avec nous. Si tu veux, tu peux rester avec nous. »
Vous ne m'avez pas dit, Marc Ferraud, à quel point ces années-là et ces épisodes-là ont déterminé, ont marqué votre vie et votre carrière.
Ben évidemment, ça, c'est la perte de ma mère d'abord. Parce que l'histoire m'a toujours passionné, mais pas comme historien, comme conteur d'histoire. C'est pas pareil. Je racontais des histoires, comme avec vous maintenant. Oui. Mais ce que j'ai découvert en Algérie, d'incroyable, c'est que je ne réfléchissais pas sur ce que j'enseignais. Je savais mon cours. J'avais mon bouquin. Je répétais ce qu'il y avait dedans. Jusqu'au jour, en 1953, où au fond de la classe, quand j'ai dit que les Français ont pacifié l'Algérie pour pas que les nomades attaquent les sédentaires qui travaillaient dans le Nord, un petit arabe au fond de la classe, de la main, m'a fait non. Comme ça. Gentiment, non. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous me dites non ? Oh, monsieur, nous, dans le sud de l'Algérie, on est bien plus malin, vous comprenez. On ne se laisse pas attraper comme ça. Et avec son bras, il me dit, on file sur nos chameaux, jamais on nous rattrape. Et là, j'ai compris qu'il y avait une vision de l'histoire pour qui le sédentaire, c'était le bien, et le nomade, le mal, mais une autre vision de l'histoire pour laquelle le nomade, c'était la liberté, et le sédentaire, l'esclave.
Europe 1.
Dans un instant, dernière partie de notre entretien avec l'historien Marc Ferraud, qui est aussi un homme d'image. A tout de suite.
Europe 1.
Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Vous êtes un homme d'image aussi, Marc Ferraud. Vous avez inventé une nouvelle discipline, cinéma, histoire, réalisé des documentaires, animé histoire parallèle à la télévision pendant 12 ans. Nous vivons aujourd'hui dans une profusion d'images. Est-ce qu'il vous arrive de vous arrêter sur des images de notre époque, des images d'aujourd'hui que vous jugez inédites, exceptionnelles, des images dont vous vous dites tout de suite elles vont marquer l'histoire ?
Oui, il y a les images pathétiques, bien sûr, tout de suite. La Syrie, tout ça. Et puis les migrants, bien sûr, en Grèce ou ailleurs. et puis également à la frontière américaine avec le Mexique. C'est ça qui frappe, bien sûr. Mais tout est tellement manipulé maintenant que je deviens suspicieux.
C'est vrai.
Sur les problèmes de l'image. Mais remarquez, dans mon livre sur le qui s'est appelé « Les Russes de l'histoire », je fais un catalogue également de ce que le cinéma a pu émettre comme œuvre qui nous ont trompés.
Bien sûr, à commencer par les images de la guerre de 14, qui sont pour la plupart, pour l'essentiel, des reconstitutions.
Oui, mais ça, ce sont des reconstitutions innocentes, je dirais, au premier degré.
Oui.
Mais il y a des choses plus graves. Un de mes collègues de Perpignan a écrit un livre sur le cinéma français de l'entre-deux-guerres et il montre très très bien qu'à partir du parlant, mettons les années 20, début des années 20, voyez, jusqu'à la guerre, il n'y a pas un seul film où on voit une grève.
Oui.
Donc c'est une image totalement fausse de la classe ouvrière. Et en plus, les ouvriers sont toujours des vaincus, ou des gangsters, ou des truands, ou des... etc. etc.
Et il meurt à la fin.
Le cinéma, il ne faut pas non plus mettre la main sur le cœur en disant il dit la vérité. Mais il apprend à voir des choses comme ça. Et ça, avant, on n'avait pas appris à le voir. Vous voyez, j'ai un étudiant là, qui m'écrit de Corse pour me dire que depuis qu'il a lu mes travaux sur le cinéma, il ne peut plus voir un film sans faire une critique des images. Et moi-même, ça m'arrive souvent de ne plus aimer les films parce que je commence à en faire une critique et du coup, c'est plus un plaisir.
Mais vous avez beaucoup aimé le cinéma et de grands films.
Oui, je crois que c'est ce qu'on me reconnaît.
Oui. Et il y a un désamour pour certains films, pour certains grands classiques ?
Dans le cas de Renoir, par exemple, quand on regarde les choses sous un certain angle, il fait un film pour les cocos, il fait un film ensuite sur les bourgeois.
Il y a un problème de sincérité chez Renoir, vous pensez ?
Oui, parce que c'est lui qui a lancé cette expression qu'un artiste a tous les droits, n'est-ce pas ? Alors, au nom de sa liberté de l'artiste, il nous embobine et il fait ce qu'il veut pour l'art. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas tellement, vous voyez. Donc, je ne suis pas un fanatique du cinéma, mais je suis un fanatique du cinéma comme instrument de connaissance de l'histoire.
Vous avez été prof au sortir de la guerre et longtemps, et dans des lycées, à une époque où les professeurs de lycée avaient jouissaient d'un grand prestige. Comment regardez-vous, Marc Ferraud, la façon dont ce métier a évolué et dont il est regardé ?
Moi, je voulais être prof d'histoire, d'abord parce que j'aimais l'histoire, puisqu'à 7-8 ans, j'ai commencé à écrire une histoire de France. Elle a eu un chapitre ou deux, parce que j'aimais l'histoire, mais l'histoire récit, comme je vous ai déjà dit. Mais je tiens beaucoup à cette distinction, pas l'histoire analytique. Voyez. Donc, j'aimais l'histoire et les profs étaient des princes.
Des princes ?
Des princes. C'est-à-dire qu'ils entraient au lycée très dignes, on les saluait gentiment ou méchamment, on les chahutait sans doute, comme dans toutes les classes de tous les lycées du monde, n'est-ce pas ? Mais c'était des princes. Et j'entrais dans cette catégorie sociale. C'est ça qui m'intéressait. Pierre Engrand, qui avait été mon prof d'histoire en philo à Paris, et qui était communiste, m'avait dit « Marc, fais pas ça, on gagne pas un rond. » Et je lui avais répondu « Ça m'intéresse pas. » Ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était la vocation de l'histoire. Donc, au début, c'était ça. Et ailleurs, en Algérie, c'était aussi ça. C'était complexe, puisqu'il y avait des communautés différentes, mais c'était instructif. Donc, j'aimais toujours mon métier à 100%. Tout a changé vers 1960. Parce qu'à partir de 1960, le ministère a commencé à envoyer des circulaires. Ça a été une brèche. Parce qu'après ces circulaires, il y en a eu d'autres, des réunions. Et j'étais à ces réunions, puisque j'avais été dans des comités comme tout le monde. Alors, il y avait le représentant des parents, le représentant des syndicats, le représentant d'administration, le représentant des élèves, le représentant de ceci, le représentant de cela. On traitait des programmes, mais il n'y avait pas d'historien. Voilà.
Une dernière question, Marc Ferraud, qui est sans doute difficile pour un historien qui ne veut pas être prophète, mais à votre avis, si vous en avez l'intuition, quel est l'aveuglement d'aujourd'hui, puisque vous avez écrit sur les aveuglements de l'histoire. Quel est l'aveuglement qui vous semble contemporain dans le débat public d'aujourd'hui ?
L'aveuglement d'aujourd'hui, comme je l'ai plus ou moins énoncé précédemment, c'est le fait que, quand il y avait la lutte des classes, les conflits étaient relativement clairs. Ils ne l'étaient pas totalement, parce que j'ai remarqué, je n'ose pas le dire, mais je le dis quand même, que par exemple, jamais les syndicats ne se sont élevés contre le travail des enfants. Eh oui, monsieur, jamais. Cherchez. Et pourquoi ? Ben parce que les ouvriers ne voulaient qu'avoir des enfants qui travaillent aussi pour eux. Donc personne ne protestait contre le travail des enfants. C'est l'ordre médical, les médecins, qui dès le 19e siècle ont en quelque sorte mis le doigt sur le travail des enfants. Et que peu à peu, on en a limité la possibilité. Ce ne serait plus à 8 ans, ce serait 10 ans, 12 ans, 14 ans. Donc il y a eu des progrès. Mais ce n'est pas venu des syndicats. Ce n'est pas venu du Parti communiste, ni socialiste, ni MRP, ni de personne. Donc aujourd'hui, sur la moralité publique, il y a encore des inconnus, comme vous voyez. Et je n'ose pas dire ce que je viens de dire, et je le dis pour la première fois, c'est la preuve qu'il y a quand même un espace trop grand maintenant entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Un espace culturel trop grand. Ils ne communiquent pas. La preuve, c'est que les Gilets jaunes, ils attaquaient aussi bien la télé que le Parti communiste, qui ne les a pas aidés à avoir un boulot. Le Parti communiste cherchait à prendre le pouvoir. Les syndicats, ils cherchaient à quoi ? À rencontrer le ministre. Rappelez-vous, une fois, deux fois, dix fois, cinquante fois, nous allons rencontrer le ministre. Et pendant ce temps-là, ceux qui n'avaient plus de travail, on n'en parlait plus, ils ne cotisaient pas. Et ce n'est pas ça qui intéressait le syndicat. C'était de parler au ministre, de participer au pouvoir. Et le Parti communiste, c'était pareil. Et les autres partis, c'était pareil. Donc il y a eu des malentendus fondamentaux, dramatiques, alors que la légitimité des syndicats était naturelle, normale. Ils défendaient bien ceux qui avaient du travail, mais pas ceux qu'on n'avait pas.
Merci beaucoup, Marc Ferraud. L'entrée dans la vie, votre nouveau livre, je ne dis pas votre dernier livre, votre nouveau livre, paraît chez Talendier. Merci de nous avoir reçus.
Europe 1.
Voilà pour ce grand entretien avec Marc Ferraud, historien né, je le rappelle, en 1924. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 9h10, pour cette arrivée. Demain, dans quelques minutes après les infos de 10h, vous aurez Mediapolis avec Catherine Ney et Olivier Duhamel. Bonjour Olivier.
Bonjour Patrick.
Votre invité ce matin.
Mon invité, c'est vraiment la personne qu'il faut pour comprendre ce que ressentent les Français dans l'épidémie de coronavirus. Pour comprendre comment ça se présente et les effets sur les municipales, c'est le meilleur pour moi, Édouard Le Cerf.
De BVA.
Politologue, sondeur, remarquable.
A tout de suite, excellente journée à l'écoute de nos programmes.
Comme vous m'avez dit.